Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, des nouvelles de la crise grecque. Deux entretiens particulièrement éclairants pour parler de la crise grecque aujourd'hui avec Éric Toussaint qui dirige la commission d'audit de la dette grecque et tout d'abord avec Dimitris Alexakis qui dirige une salle de spectacle alternative dans un quartier du centre d'Athènes. Dimitris Alexakis, vous connaissez bien la Grèce, vous y vivez maintenant ? Vous y venez depuis toujours ?
J'y viens tous les étés depuis que je suis né. Ça fait 14 ans que je vis ici. Il y a 4 ans, avec ma compagne, on a ouvert un lieu de création culturelle dans le quartier où on vit, qui s'appelle Kypsali, qui est un quartier fortement touché par la crise. On a retapé un grand sous-sol qui appartenait à la famille de Fotini, qui était un ancien atelier de réparation de télévision. Et puis donc depuis 3 ans, on dirige, on anime cet espace, on accueille des représentations théâtrales, des performances, des concerts, souvent des concerts improvisés.
Alors c'est curieux parce que vous avez très rapidement évoqué la crise. J'aimerais que vous nous donniez, Dimitris Alexakis, des nouvelles de la crise.
D'une certaine façon, on a vécu 5 voire 6 ans dans la crise, comme si on la subissait, comme si c'était quelque chose qui nous était imposé. Et ce qui s'est passé, à mon avis, à partir des élections, et surtout après, plus important à mon avis que le vote lui-même, c'est la réaction d'énormément de Grecs après les élections, aux premières mesures, aux premières tentatives de négociation avec l'Europe, avec les institutions européennes, du gouvernement grec. Le soutien qui s'est formé à ce moment-là, très 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 vite, en quelques jours, et qui fait qu'on a commencé, nous, à parler au peuple européen de la crise. Et cette situation de passivité, passivité évidemment il faut la relativiser, parce qu'il y a énormément de luttes importantes, de luttes sociales, de luttes politiques. Et c'est devenu, là pour le coup, directement politique.
Est-ce que tout de même vous faites un lien entre ces différentes luttes que vous évoquiez? Vous dites que c'était une passivité toute relative. Et effectivement, on sait qu'il y a eu énormément de réactions, et même plus que de réactions, il y a eu énormément de constructions de la part du peuple grec. On pense évidemment à tous ces jardins qui ont fleuri partout, des jardins potagers. On pense à ces dispensaires où il est possible de venir se faire soigner gratuitement. On pense à ces usines qui ont changé leur production pour faire des productions qui étaient utiles aux gens, on pense à cette lutte extrêmement importante contre la mine d'or de Skouries. Toutes ces luttes, est-ce que vous pensez qu'elles ont nourri cette deuxième phase que vous évoquez, lorsque on sort de la crise subie pour se mettre à analyser et à observer la crise et à en parler?
D'une certaine façon, ce qui manquait, c'était justement la coordination, en tout cas au niveau de la conscience des gens, et le passage à un échelon politique. Il fallait à un moment qu'il y ait une parole politique qui s'adresse directement aux banques. Même pas au ministre des Finances allemand, encore moins au ministre de l'économie française, ni à Hollande, ni même à Merkel, mais à ce que représentent ces personnalités politiques, qui est, disons, le monde de la finance, les banques et les banques centrales. Mais je pense que dès les premiers jours de l'élection, après l'élection, il y a quelque chose comme un sujet politique multiple, qui se compose de gens extrêmement différents, de gens qui font pas forcément traditionnellement partie de la gauche grecque, qui n'ont pas forcément ces références-là, de gens aussi qui se sont jamais vraiment occupés de politique.
C'est comme si les lignes avaient bougé, Dimitris Alexakis. Là, vous évoquez deux interlocuteurs auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé, d'une part les peuples européens, et d'autre part les banques.
Pour moi, le premier interlocuteur, c'était les peuples européens, c'était le peuple français, le peuple allemand, etc.
Pourquoi c'est si important de s'adresser à ces peuples ?
On est jusqu'à présent dans le même espace politique, symbolique, historique, culturel, qui s'appelle l'Europe. Et jusqu'à présent, ou au moins jusqu'à l'accord du 20 février, L'idée, grosso modo, je crois, était de faire crédit à l'Europe, d'apporter crédit à l'Europe, c'est-à-dire de se dire que c'était un espace dans lequel il y avait encore des choses à faire, des revendications à avancer, des droits à faire valoir, des idées à partager, etc. C'est-à-dire que c'était encore un espace de parole politique. Je pense qu'en grande partie, l'accord du 20 février et les réactions des chefs d'État européens, et puis la première mesure extrêmement sévère de la Banque Centrale Européenne, qui d'une certaine façon a précédé les premières vraies décisions politiques, c'est disons quand même Mario Draghi qui a donné le ton à ce niveau-là, ont apporté un démenti à cette espèce de sentiment qu'on avait encore des choses à faire, des choses à dire dans cet espace-là. Il faut quand même se rappeler que la Grèce, c'est un pays qui est sur la corde raide, que les marges de manœuvre sont infimes, que la liquidité est presque nulle, qu'on est toujours à deux doigts d'un effondrement du système bancaire, avec tout ce que ça veut dire. Et donc les marges de manœuvre étaient infimes, et en suivant ce choix stratégique du gouvernement grec, il était important qu'il y ait quand même quelques signes de soutien immédiat, étant donné la situation du pays, étant donné la corde raide sur laquelle on est, de la part de la France, de la part de l'Italie et de la part des peuples. Et ça n'est pas arrivé. C'était extrêmement violent de se rendre compte que non seulement Hollande, mais aussi d'une certaine façon le peuple français, sur lequel je pense que beaucoup de Grecs comptaient, je pense qu'il y avait quand même un espoir nourri par une histoire d'échanges communs entre ces deux pays. Je pense que là, ça a été une gifle. Pour ce qui nous concerne maintenant, la stratégie des dirigeants européens de la Banque centrale, ça a consisté à utiliser, à organiser une espèce de sursis à l'infini, jusqu'à ce que le gouvernement tombe, abdique, se trahisse, provoque une déception terrible dans la population grecque, etc. Je crois que leur stratégie était assez cruellement étudiée et assez efficace. Ça a consisté à attendre, à utiliser le temps contre nous. Moi, au début, je pensais qu'effectivement, on avait besoin de temps, que la première chose qu'il fallait qu'on gagne, c'était du temps. Peu à peu, on s'est rendu compte, à partir de l'accord du 20 février, mais déjà à partir de la fermeture partielle des liquidités de la Banque Centrale Européenne, que nos partenaires, qui en l'occurrence sont des partenaires adversaires, laissaient jouer le temps contre nous, en sachant très bien qu'on n'avait pas les moyens de tenir. Et partenaires adversaires, dans cette négociation du gouvernement grec, se contentent de dire « ça ne suffit pas, c'est pas assez, c'est pas sérieux », au lieu éventuellement de dire « non, on refuse ». Et finalement, ça nous reconduit toujours à la situation d'extrême précarité dans laquelle on est. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus on est asphyxié. La stratégie du temps qui joue contre nous, c'est une stratégie d'évitement de la responsabilité politique. On ne prend pas la parole. Merkel, au début des négociations, ne parlait quasiment jamais. Prenait très très peu la parole.
En vous écoutant, Dimitris Alexakis, je me dis que ce que vous pointez là, et que je n'avais pas vu, c'est la façon dont le silence est devenu une arme qui permet de dissoudre le politique dans l'économique.
Voilà, pour moi c'est une négociation, c'est pas une négociation évidemment, c'est une négociation avec le silence, donc c'est pas une négociation. Finalement, face du gouvernement grec qui nous représente, qui représente un peuple, jusqu'à présent, et ça c'est assez remarquable, et c'est pour moi la chose la plus émouvante et la plus forte depuis les élections, c'est cette représentation, le sentiment que nous sommes représentés dans un sens un peu inédit auprès des instances européennes et des banques. Et cette négociation donc se fait avec le silence. Notre arme, c'est la parole. Et c'est quand même une arme beaucoup plus puissante que ce que semblent penser les banquiers, les économistes de la Banque Centrale Européenne et les dirigeants qui les entourent. disons les bureaucrates politiques. Ils mésestiment l'importance d'énormément de choses qui ont trait à l'humain, qui ont trait à la parole, qui ont trait au symbolique, qui ont trait à l'éthique, qui ont trait à l'histoire. Ils mésestiment énormément ce que c'est en partie que l'Europe, ce que c'est que la Grèce, quelle est l'histoire de ce pays. Ils ne parlent jamais de la Grèce que comme d'un pays qui, à partir des années 80, était miné par la corruption, ce qui est vrai. Mais ils ne se rendent pas compte que avant les années 80, avant la corruption, il y a toute une histoire extrêmement importante. Il y a une histoire de résistance extrêmement forte à l'occupant nazi. Il y a une histoire d'occupation extrêmement meurtrière. Il y a tout un tas de choses dans l'histoire grecque dont on a l'impression qu'ils n'ont même pas connaissance. Il y a une espèce d'ignorance assez terrible et très froide et assez vulgaire et grossière derrière toutes ces apparences technocratiques, lissées, grises, cette espèce de gris des costumes de Bruxelles qui est tellement prégnant là quand on voit les images des négociations. C'est quelque chose de très neutre, de très froid, de très comme ça, sans histoire, sans symbole, sans corps. Bon.
Un peu mort-vivant.
Ouais, totalement, ouais.
Éric Toussaint, vous êtes un des fondateurs du CADTM, le comité d'annulation de la dette du tiers-monde. Vous êtes un des plus fins analystes de ces dettes qui étranglent aujourd'hui un certain nombre de pays. C'est vrai que ça a commencé avec les pays du Sud. Aujourd'hui, ça arrive en Europe avec la Grèce. Il s'est passé quelque chose d'assez inhabituel et peut-être même inespéré. Le Parlement grec, et plus précisément sa présidente, Zoé Constantinopoulos, a décidé d'organiser une commission d'audit de la dette grecque. Cette commission d'audit, c'est quelque chose que vous appeliez vous-même de vos voeux depuis longtemps. Vous en êtes aujourd'hui le coordinateur. J'aimerais que vous nous expliquiez déjà ce que c'est qu'une commission d'audit citoyenne de la dette. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Comment est-ce qu'on l'organise? Beaucoup de questions.
Mmh. Donc cette commission d'audit est composée d'une quinzaine de personnes qui ne sont pas de Grèce et qui proviennent de 10 pays différents et d'un peu plus de 15 Grecs. On a pour mandat d'identifier les parties illégitimes, insoutenables, illégales et odieuses de la dette réclamée aujourd'hui à la Grèce. Donc on se pose la question suivante. Est-ce qu'elles ont été, ces dettes, octroyées ou les crédits octroyés à la Grèce l'ont-ils été en respectant la légalité, c'est-à-dire la constitution grecque, les lois internationales? Est-ce que les conditions mises au moment de l'octroi des prêts respectent les traités internationaux ou qui garantissent l'exercice des droits humains fondamentaux? Il y a maintenant d'application au moins une trentaine de traités, pactes et conventions internationales protégeant les droits humains. Et donc là, précisément au niveau de la Grèce, il y a quelque chose qu'il faut relever, souligner, et qui d'une certaine manière facilite le travail. C'est la chose suivante, un peu comme dans une tragédie grecque, on a une unité de temps, une unité de lieu, une unité de protagoniste et une unité d'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la dette aujourd'hui réclamée à la Grèce est une dette qui a été octroyée par ce qu'on appelle la Troïka. La Troïka, c'est la Banque Centrale Européenne, le Fonds Monétaire International, 14 pays de la zone euro qui ont réalisé des prêts à la Grèce, dont la France, et une structure mise en place par ces pays européens qui s'appelle le Fonds européen de stabilité financière. Ces quatre grands créanciers détiennent 80% de la dette grecque, plus de 240 milliards d'euros. Et ces prêts ont été octroyés à partir de mai 2010. Ça veut dire que nous pouvons étudier une période de 5 ans où nous avons des créanciers clairement identifiés. Nous savons combien d'argent ils ont prêté et ce qui est de particulier, c'est que ces créanciers on traitait en fixant des conditions très précises qu'on a définies dans des documents qui s'appellent les mémorandums. Il y a plusieurs mémorandums qui se sont succédés et ces mémorandums disent aux autorités grecques ce qu'elles doivent faire. Par exemple, réduire de 25% le salaire minimum légal pour les personnes plus âgées que 25 ans, de 32% pour celles qui ont moins de 25 ans, réduire le montant des retraites de 30%, créer une taxe foncière, y compris sur la première habitation, même si elle n'a une valeur que de 80 000 ou de 100 000 euros, il y a une taxe importante qui n'existait pas avant 2010. Toute une série de mesures qui touchent à l'emploi, 150 000 suppressions d'emplois exigées par le mémorandum, des privatisations très précises, la liste des entreprises à privatiser est établie par les créanciers, et ces créanciers, dans des documents aussi précis et publics, passent en revue l'application des mesures. Et si les mesures ne sont pas appliquées, ils refusent de débourser. D'ailleurs, on est dans cette situation au mois de mars, avril, mai, juin 2015, puisque les créanciers, comme le Fonds monétaire international ou la Banque centrale européenne, refusent de libérer des fonds pour un montant d'environ 11 milliards qui devraient être libérés depuis plusieurs mois et ne le sont pas parce que selon ces créanciers, les autorités précédentes, celles notamment du gouvernement d'Anthony Samara, s'étaient engagées à réaliser. Donc on a, au moment où on réalise l'audit, une unité de temps, 5 ans, des protagonistes précis, c'est-à-dire les autorités grecques qui se sont succédées, Papandreou, puis Samaras, puis maintenant Alexis Tsipras à la tête d'un gouvernement d'alliance. On a une unité d'action, donc les mesures précises qui ont été dictées par les créanciers. On peut mesurer l'impact de ces mesures sur les conditions de vie des Grecs et sur l'économie grecque, une chute de 25% du produit intérieur brut. On peut vérifier que la dette est passé de 113% en 2009 avant les accords à aujourd'hui environ 180%, donc elle a très fortement augmenté.
Du produit intérieur brut.
En pourcentage du produit intérieur brut, voilà. Et donc, le comité d'audit a, je dirais, un espace-temps et lieu clairement défini qu'il étudie. Du point de vue des normes juridiques, des normes légales, notamment des normes en matière de droits de l'homme, afin de diagnostiquer, d'identifier des dettes illégitimes, insoutenables, illégales ou odieuses.
C'est une démarche qui est d'ailleurs prévue par les textes, c'est l'article 7, je crois.
L'article 7, paragraphe 9 du règlement 472 adopté le 21 mai 2013 par le Parlement européen et le Conseil de l'Europe.
Je vous remercie, j'aurais pas été capable de le dire. Donc, démarche qui consiste effectivement à analyser la situation. Vous avez utilisé un certain nombre de termes, Éric Toussaint, dette illégitime, illégale, odieuse. Ce sont des termes qui ont l'air d'être des jugements, qui sont en vérité des termes qui recouvrent des choses extrêmement précises. Donc j'aimerais que vous les expliquiez et que vous nous expliquiez en quoi cette démarche prévue par les textes européens peut aboutir et à quoi.
Par rapport à la réglementation européenne, les autorités européennes ont adopté le règlement 472 qui concerne les pays de l'Union européenne qui reçoivent des aides financières et qui sont sous programme d'ajustement structurel. C'est le cas aujourd'hui de la Grèce, de Chypre, du Portugal, de l'Irlande. Ce règlement est très contraignant et montre à quel point les autorités européennes s'immiscent dans les affaires internes des États. Et il y a effectivement un article qui dit « Un gouvernement d'un pays soumis à l'ajustement structurel » réalisera un audit intégral de ses dettes publiques afin d'expliquer pourquoi ces dettes ont augmenté et de déceler des irrégularités éventuelles. Effectivement, la présidente du Parlement grec s'est saisie de cet article du règlement pour dire, quelque part, chiche. on réalise l'audit et on constitue un comité pour réaliser cet audit. Alors, l'article du règlement européen parle d'irrégularité. Nous avons voulu étendre le champ pour définir quel type d'irrégularité on pourrait rencontrer. Et donc, un des travaux importants réalisés par le comité, c'était de se mettre d'accord sur des définitions. Alors, en résumé, voici les définitions. Une dette illégitime est une dette contractée sans respecter l'intérêt général, une dette qui est accumulée afin de favoriser l'intérêt particulier d'une minorité.
Vous avez des exemples avec tout ça ?
Toute une série de dirigeants, qu'ils soient du Fonds monétaire international, qu'ils soient des conseillers des institutions comme la Commission européenne, disent en fait, la Troïka a octroyé des prêts à la Grèce, pas pour sauver la Grèce en 2010-2011, mais pour sauver une série de grandes banques françaises, allemandes, britanniques, belges, italiennes, luxembourgeoises, qui avaient prêté de manière aventureuse à la Grèce et qui, si la Grèce ne recevait pas de prêts, risquaient de ne pas être remboursées par la Grèce. Des banques donc qui n'avaient pas vérifié la solvabilité de la Grèce et qui avaient jeté littéralement de l'argent à la tête des autorités grecques. Et donc, effectivement, si nous pouvons démontrer que, comme le déclare une série de témoins privilégiés, le plan dit de sauvetage de la Grèce a servi d'abord les intérêts de grandes banques privées et les intérêts des banquiers grecs, on pourra parler d'une minorité privilégiée et de mesures qui ont servi à une minorité privilégiée. Une dette illégale, c'est très simple en fait, c'est une dette qui a été accumulée sans respecter les lois en vigueur. Donc, on va analyser les conditions dans lesquelles la Grèce a emprunté à partir de 2010 et voir si la constitution grecque a été respectée, si les lois grecques ont été respectées, si les lois des pays qui ont fait des prêts à la Grèce, comme la France ou la Belgique, les lois de ces pays ont été respectées par les autorités françaises et belges et les autres pays qui ont prêté, si les traités sur le fonctionnement de l'Union européenne a été respecté, notamment l'article 125 qui prévoit qu'un État membre ne peut pas s'engager financièrement pour un autre État membre. La légalité, c'est aussi le respect de ces pactes internationaux qui protègent les droits de l'homme. Dans la hiérarchie du droit, les traités internationaux protégeant les droits humains sont d'une valeur supérieure aux contrats commerciaux. Et donc, si des dettes ont été octroyées à la Grèce, à condition de ne pas respecter ou de violer des droits humains fondamentaux, le droit à l'accès à l'éducation publique, le droit à l'accès à des infrastructures et du personnel de santé publique de qualité, la protection des personnes handicapées, la protection des enfants et les droits des femmes, le droit à un travail décent, le droit à une retraite décente, tout ça, ce sont des droits qui sont codifiés par des pactes internationaux.
Et de fait, quand on écoute cette liste, Eric Toussaint, tous ces droits-là ont été violés.
Effectivement, il est pour nous, je dirais qu'au niveau de notre travail préliminaire, on constate que des droits fondamentaux sont clairement bafoués ou violés par des mesures très concrètes dictées par les créanciers et acceptées par les autorités grecques qui se sont succédées depuis 2010 et qui ont été complices de ces violations parce que elles auraient pu essayer de résister à ces conditions. Et c'est d'ailleurs ce qui a amené la population grecque le 25 janvier à voter en rejetant les partis qui avaient appliqué ces mesures et en portant au pouvoir un parti qui disait « Si vous nous élisez, nous déferons ces mesures et nous romprons avec l'austérité. » Donc il y a un mandat populaire aussi précis qui était donné aux autorités grecques. Donc ça, c'est sur l'illégalité. Alors, la notion de
dette odieuse,
c'est une dette qui est octroyée, ou des crédits qui sont octroyés, à la condition de violer gravement des droits humains. Donc là, qui donne un caractère odieux à cette dette. Et donc là, il peut y avoir à la fois illégalité, caractère odieux, et illégitimité. L'insoutenabilité d'une dette, c'est la chose suivante, est insoutenable. Une dette dont le remboursement implique que les autorités du pays concerné se trouvent dans l'incapacité de garantir l'exercice des droits humains fondamentaux à la population. Donc l'insoutenabilité a à voir avec une notion très importante aussi du droit international et de jurisprudence internationale qu'on désigne comme l'état de nécessité. On ne peut pas condamner un état à l'anarchie, au non-respect de la sécurité de la population, à la désorganisation de son système d'éducation et de santé, à l'abandon d'une série de normes fondamentales qui constituent une obligation pour l'État. Et donc, en fait, ces quatre catégories de dettes qu'on vient de définir, il y a clairement, comme vous pouvez le constater, un aspect de prise en compte des droits humains comme une norme supérieure du droit, et par ailleurs, des traités, des lois en vigueur dans un pays donné.
Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir aller devant des tribunaux, ce qui pourrait prendre un temps très long, et est-ce que ce temps existe ? Comment est-ce qu'on peut utiliser cet audit, Éric Toussaint, de manière à desserrer les taux qui pèsent aujourd'hui sur la population ?
Il y a deux possibilités. Se baser sur nos travaux pour aller au-devant des créanciers et leur dire « Écoutez, jusque maintenant, on a expliqué qu'on avait des difficultés de remboursement, mais nous avons continué à rembourser, malgré nos difficultés. » Et effectivement, depuis le 25 janvier, la Grèce a réalisé toute une série de remboursements à ses créanciers, tout en demandant aux créanciers de faire preuve de bonne volonté et d'accepter une réduction de la dette grecque, dont la réalisation, cette réduction, n'était pas mise par les autorités grecques comme une condition préalable à la négociation. Bon, c'était un des résultats de la négociation. Les autorités grecques, constatant que les créanciers ne veulent pas entendre raison et ne veulent pas aller jusqu'à une annulation de dette, peuvent alors poser un acte souverain, un acte unilatéral, sur la base d'arguments de droit. Vous me demandiez, les autorités grecques peuvent-elles aller devant un tribunal et si elles font ça, ça risque de prendre longtemps. Il n'y a pas de tribunal international pour régler les litiges en matière de dette souveraine, de dette contractée par les pouvoirs publics. Ça n'existe pas, ce tribunal international. Il y a bien une cour de justice internationale qui tranche les litiges entre des États, et la Grèce pourrait introduire une plainte à la Cour internationale de justice de La Haye contre l'Allemagne ou contre la France ou contre un autre État si elle se sent victime du comportement de cet État, mais ça prend effectivement beaucoup de temps. Donc ce qui est possible, par contre, c'est une décision des autorités grecques de fonder un acte souverain unilatéral sur des arguments de droit. Et là, la Grèce n'a demandé à personne l'autorisation de poser un acte souverain du moment que cet acte souverain respecte des normes clairement établies du droit.
Reste que dans ce rapport de force qui oppose aujourd'hui la Grèce à une coalition extrêmement puissante, il y a également, me semble-t-il, une certaine puissance des mots et de la manière dont les choses ont été présentées. Là, nous avons parlé de dette, nous avons parlé de remboursement, et il y a effectivement, c'est à dessein que j'avais employé tout à l'heure le terme de jugement. Il y a un jugement moral qui est porté de manière très forte par l'opinion publique, on va dire, internationale, qui tend à penser que, puisque les Grecs ont emprunté inconsidérément, ils doivent rembourser, en effet, et il serait tout à fait anormal qu'ils refusent d'honorer Verdette. Alors, vous n'avez peut-être pas donné suffisamment d'exemples, Eric Toussaint, de la façon dont l'argent a circulé entre les créanciers et la Grèce. Vous avez évoqué tout à l'heure que les premiers prêts avaient été consentis, non pas pour tirer la Grèce d'affaires, mais pour tirer les banques d'affaires. Mais ensuite, il y a eu aussi toutes sortes d'histoires qui ont été très importantes et qu'il convient peut-être de rappeler. Je pense aux Jeux Olympiques, je pense aux armes qui ont été vendues.
Oui, donc la dette grecque a augmenté au cours des... à partir, je dirais, de manière très importante, à partir de l'entrée de la Grèce dans la zone euro, parce qu'une série de grandes banques et de grandes entreprises étrangères, notamment des entreprises privées allemandes et françaises fournisseuses d'armes et d'équipements en général, voulaient que la Grèce augmente ses achats de manière très importante. Et comme la Grèce n'avait pas les moyens de payer cash, elle a émis des emprunts. Et les grandes banques de ces mêmes pays, donc principalement les banques françaises et allemandes, ont octroyé massivement des crédits sans vérifier la capacité de la Grèce à rembourser. Or, vous savez, comme moi, je veux dire, n'importe quel auditeur ou n'importe quelle auditrice sait que le banquier, quand il octroie un crédit, il vérifie la solvabilité. Les banquiers avaient ce devoir d'enquête à l'égard de la Grèce et n'ont pas du tout respecté leur obligation de vérification de la solvabilité de la Grèce. Alors, on parle de ces grands dossiers, de ces grandes commandes, donc on peut donner quelques exemples. Par exemple, le budget des Jeux Olympiques de 2004 a été en réalité multiplié par 4 entre le moment où on a dit combien ça allait coûter à la Grèce et combien ça a coûté réellement. Et il y a par exemple la grande firme allemande transnationale Siemens qui a fourni le système de sécurité pour les Jeux Olympiques et ce système de sécurité n'a jamais fonctionné. Et la Grèce rembourse le système de sécurité. Ça, c'est un exemple précis. En matière d'armes, les firmes allemandes ont fourni des sous-marins de guerre. Ils penchent à gauche. Et ils n'arrivent pas à fonctionner normalement. Mais la Grèce rembourse ces sous-marins qui penchent à gauche. La firme Martin Lockheed des États-Unis, qui est connue depuis des décennies pour des affaires de corruption, a fourni évidemment avec la complicité des autorités grecques dans les années 2000 une trentaine de chasseurs bombardiers grecs F-16 sans moteur et sans système de protection de navigation. Donc cette société avait réussi à convaincre les autorités grecques d'acheter des avions et c'était à la fin de la législature, donc les avions sont arrivés, il n'y avait pas de moteur et le gouvernement suivant, après les élections, a dû évidemment acheter les moteurs et le système de navigation, ce qui fait que le cahier des charges n'avait pas bien été étudié. Évidemment, on n'achète pas d'avion sans moteur. Et évidemment, Martin Lockheed savait très bien, cette société savait très bien ce qu'elle faisait. Il y a des affaires importantes en matière d'achat d'armes qui ont fait l'objet de procès et de condamnations. Contrairement à l'idée selon laquelle en Grèce on peut faire n'importe quoi, des choses graves sont arrivées en Grèce avec des montants très élevés de pots de vin payés par les sociétés, mais à partir de 2013, il y a eu une série de procès. Par exemple, un ministre de la Défense, du PASOK d'ailleurs, donc du Parti Socialiste, a été condamné en 2013 à 20 ans de prison et il est en train d'accomplir ses 20 ans de prison. Il y a un procès en cours dans l'affaire Siemens, il y a 69 inculpés. Le directeur de la filiale de Siemens en Grèce, il s'appelait Siemens Hellas, ce monsieur est en fuite en Allemagne, il a été condamné en Grèce, les autorités grecques ont demandé l'extradition de cette personne, et les autorités allemandes qui ont condamné cette personne refusent de l'extrader maintenant vers la Grèce afin que aussi la justice grecque puisse le juger et puis le condamner. Donc il y a effectivement avant 2010 de très grosses affaires de corruption et d'augmentation de la dette liée à des intérêts de sociétés privées, principalement allemandes, françaises et des États-Unis. Et on peut se rendre compte, enfin il faut se poser la question, en 2010, je vous disais, on a sauvé les banques. Qui était au pouvoir à ce moment-là aux différents endroits? Il y avait Georges Papandréou, socialiste, il était un des dirigeants de l'International Socialiste. Il y avait Dominique Strauss-Kahn, directeur général du Fonds Monétaire International, futur présidentiel pour le Parti Socialiste et ami de Georges Papandréou. Il y avait Nicolas Sarkozy, président de la République en France, et Angela Merkel, chancelière. Et il y avait en jeu de grandes banques françaises, de grandes banques allemandes, de grandes firmes françaises comme Thalès, de grandes firmes allemandes comme Siemens et Thyssen et Krupp. Il y a eu des contacts entre ces différents protagonistes afin qu'on prête de l'argent à la Grèce pour que ces grandes sociétés privées soient payées. On sait, y compris, que à la fois les autorités françaises et allemandes ont recommandé lors du premier plan d'austérité de ne pas appliquer la réduction des dépenses de manière brutale pour les dépenses militaires, parce que des fournitures d'armes étaient en cours et les gouvernants français et allemands voulaient avoir la garantie que la Grèce rembourserait bien et paierait bien les fournisseurs d'armes. Donc l'accumulation des dettes grecques, il y a évidemment les autorités grecques qui ont une responsabilité très importante et qui se sont laissées allègrement corrompre. On estime que dans le cas des pots de vin payé par Siemens en Grèce, le montant total s'élèverait au moins à 200 millions d'euros. C'est des sommes tout à fait considérables. Et étaient corrompus, je dirais, à la fois les gouvernants PASOK et les gouvernants Nouvelle Démocratie. Donc la nouvelle dette accumulée à partir de 2010 auprès de la Troïka, c'est une dette pour rembourser les anciennes dettes qui étaient frappées d'illégalité, d'irrégularité, pour des faits de fraude, de corruption, de falsification de documents dans les cahiers des charges, etc. Et nous allons vérifier, en auditionnant une série de témoins privilégiés du processus d'endettement de 2010, 2011, 2012, 2013, qu'il y avait connaissance de la part des créanciers du dossier et implication dans le dossier, pour montrer qu'il y avait y compris des conflits d'intérêts dans le comportement de certaines autorités, qu'elles soient grecques ou françaises ou allemandes ou européennes ou celles du Fonds monétaire international. Alors, ce que les auditeurs français ou belges doivent se poser comme question, est-ce que les autorités de mon pays, la France, la Belgique, la Suisse, parce que là les banques suisses ont joué allègrement, et notamment HSBC, connaît la liste, l'affaire de la liste Lagarde. Il y a eu des complicités de grandes institutions bancaires dans le cadre de l'évasion fiscale qui a favorisé des banques françaises, suisses, allemandes qui accompagnaient ou favorisaient l'évasion fiscale. Il y a l'élite grecque qui en a profité. Et donc ce qu'on doit se poser comme question, c'est est-ce que les autorités de nos pays respectifs font le nécessaire pour combattre cette corruption, cette fraude, cette évasion fiscale? Est-ce que les autorités de notre pays, là, ça concerne la France, l'Allemagne, la Belgique, quand elles ont prêté de l'argent à la Grèce en 2010, quelles étaient réellement leurs motivations? Est-ce que c'était, comme elles l'ont affirmé, pour permettre à la Grèce de payer les retraites et les salaires? Ou est-ce que c'était à condition que l'argent repartent immédiatement de la Grèce vers les grandes banques françaises, allemandes et des autres pays? On pourra démontrer que c'est reparti vers ces banques et que l'argent n'a pas été utilisé réellement pour améliorer les conditions de vie ou garantir l'exercice minimum de droits comme le droit à la retraite. Les retraites ont été payées sur le budget normal de la Grèce, tandis que les prêts octroyés par la France et les autres pays, ainsi que par le FMI, sont repartis. On considère qu'il y a moins de 15% des montants prêtés à la Grèce qui sont restés en Grèce. Mais ils sont restés pourquoi ? Il faut aussi se poser la question, souvent pour organiser des privatisations. Je vais vous donner quelques exemples. Les créanciers exigent de la Grèce qu'elle privatise. Il y a 24 grands bâtiments publics qui ont été privatisés, dont 3 n'étaient pas occupés. Ils étaient vides. Ils ont été privatisés à un prix extrêmement bas. Le montant de la privatisation est parti vers un compte bancaire contrôlé par les créanciers, et ce montant-là est parti immédiatement et intégralement dans le remboursement de la dette. Donc il n'y a pas eu de recettes réelles pour l'État grec. Par contre, comme l'État n'est plus le propriétaire des bâtiments, il paye des loyers aux entreprises qui ont acheté ces bâtiments. Et il paye y compris des loyers pour les 3 bâtiments qui ne sont pas occupés par l'État. Mais dans le contrat de vente, il était mis que l'État allait payer une location pour eux. Donc là, on est aussi clairement devant une affaire frauduleuse, une affaire de corruption. Des personnes impliquées du côté grec et du côté des entreprises qui ont acheté, et les autorités européennes et celles du FMI qui contrôlent ce que fait l'organisme de privatisation ont été informées de cela et n'ont pas réagi. Donc on va aussi prendre en compte cela dans notre audit, et notre audit va servir à sensibiliser l'opinion publique des pays créanciers. L'opinion publique française, belge, allemande, italienne, espagnole va aussi viser à sensibiliser les parlementaires français qui ont voté ces crédits à la Grèce, les parlementaires européens qui sont aussi constamment confrontés aux problèmes de la dette grecque, et on va essayer de faire progresser la conscience de l'opinion publique pour aller à l'encontre de campagnes largement mensongères qui présentent les Grecs comme des paresseux, comme des fraudeurs, comme des gens qui ne payent pas l'impôt, alors que ça concerne une partie de la classe politique grecque et de l'élite grecque, et ça ne concerne pas la majorité de la population grecque qui, elle, est victime. Rappelez-vous cet événement suivant. On était fin octobre 2011, début novembre 2011. Allait se tenir à Nice le G7 pour parler notamment de la Grèce, mais d'autres problèmes des grandes puissances. Georges Papandréou, avant de prendre l'avion, indique qu'il a l'intention de convoquer un référendum en Grèce pour février ou mars 2012 pour demander à la population grecque si elle est d'accord que la Grèce souscrive un deuxième mémorandum qui devait être réalisé en février ou en mars. Qu'ont dit les dirigeants européens comme Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ? Pas question que vous consultiez la population grecque là-dessus. Si vous voulez la consulter, vous ne pouvez la consulter que sur une question, oui ou non, pour rester dans la zone euro. Et de toute façon, les autorités françaises, allemandes et les autres ont convaincu Papandréou de ne pas faire le moindre référendum. Donc quand la population grecque a été consultée, notamment le 25 janvier 2015, lors d'élections, et lors de ces élections, la population a dit « on ne veut plus des mémorandums, on ne veut plus de l'austérité. On veut, comme le promet Syriza, un audit de la dette grecque ». C'était au programme dit de Thessalonique de septembre 2014, avec lequel Syriza est allé devant les électeurs. Son allié, d'ailleurs, les Grecs indépendants, demandait aussi l'audit. Et il remet, son allié, les Grecs indépendants, remet aussi en cause le caractère légitime et légal de la dette réclamée à la Grèce. Donc il y a un accord là-dessus entre les deux partenaires du gouvernement qui ne font donc, en mettant en place le comité d'audit, que, je dirais, répondre aux vœux de l'électeur grec, appliquer le règlement européen dont on a parlé tout à l'heure, le règlement 472 du 21 mai 2013, et réaliser un exercice démocratique élémentaire, qui est se poser les bonnes questions sur pourquoi notre pays et comment notre pays s'est endetté dans de telles proportions et aux conditions qui ont été imposées à la Grèce. Mais les Français et Françaises devraient se poser les mêmes questions pour la dette réclamée à la France, puisque c'est eux, avec leurs impôts, qui vont devoir rembourser cette dette réclamée à la France. Et donc il faudrait se poser dans chaque pays les bonnes questions sur la légitimité, la légalité, la soutenabilité, le caractère odieux ou non des dettes qui sont réclamées à nos pouvoirs publics et que nos pouvoirs publics ont contractées, entre guillemets, peut-être sans respecter le principe de l'obligation de tenir compte de l'intérêt général et pas de l'intérêt d'une minorité privilégiée au moment où on accumule des dettes.
Éric Toussaint, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Nicolas Cerceron qui voit dans la dette une forme moderne d'extractivisme. Mmh. Après l'esclavage, après le colonialisme, qui ont été des formes d'extractivisme, après aussi l'extractivisme forcené des matières premières dans les pays du tiers-monde, la dette aujourd'hui est une arme pour continuer à s'approprier les richesses naturelles, les richesses énergétiques, les matières premières, et même finalement s'approprier les systèmes politiques de tous les pays concernés.
Oui, on peut parler de système dette. Le système dette, c'est un système avec des mécanismes subtils qui amènent les autorités d'un pays à augmenter fortement le recours à l'endettement pour financer leurs projets. C'est déjà un choix, parce qu'on pourrait parfaitement recourir beaucoup moins à la dette et financer par des impôts prélevés en respectant aussi l'intérêt général, c'est-à-dire en faisant contribuer les minorités privilégiées, tant en taxant leur patrimoine du 1% le plus riche et leurs revenus qui sont quelquefois délirant, comme cette retraite que va toucher l'ancien patron de PSA et comme de tas d'autres patrons qui ont mal géré leur entreprise du point de vue des intérêts de l'entreprise, ce qui a entraîné des licenciements massifs, mais qui se retrouvent avec des parachutes dorés et des retraites extraordinaires au moment où on demande aux autres retraités de faire des efforts terribles. Donc il y a le système d'aide, c'est un système où l'État va plutôt recourir à l'instrument de l'endettement pour financer les dépenses et les investissements que le financer par un prélèvement juste socialement de l'impôt. Puis le système dette, c'est aussi le fait que les conditions alors de remboursement, les taux d'intérêt pratiqués et en Europe par exemple le fait que la banque centrale européenne et les banques des États membres de la zone euro ne peuvent pas directement prêter aux États, c'est les banques publiques, comme la Banque Centrale Européenne, prêtent aux banques à 0,05%, qui ensuite prêtent aux États, elles prêtent à la Grèce à du 4,5%, elles prêtent à la France maintenant à 10 ans à du 1,5%, mais elles empruntent donc à 0,05% à la Banque Centrale. Pourquoi la Banque Centrale Européenne ne prête-t-elle pas directement aux États de la zone euro ? Le système dette aussi, c'est une construction où il y a des mécanismes d'endettement qui, au moment où la dette est générée, favorisent déjà l'intérêt privé. Et puis, au moment où on rembourse, alors il faut s'interroger aussi sur quels sont les projets qui servent à être financés par les dettes. Si ce sont des projets qui détruisent l'environnement, qui privilégient des transports privés aux transports collectifs, qui privilégie le nucléaire et d'autres types d'industries, malgré les discours sur le capitalisme vert, on voit que on continue allègrement à faire des dépenses dans des sources d'énergie qui continuent à être tout à fait dangereuses et qui épuisent les ressources naturelles. Donc le système dette, c'est un mécanisme qui asservit quelque part les pouvoirs publics à des intérêts privés précis. et particulier. Et effectivement, c'est très important de comprendre cela, de réfléchir sur à quoi sert la dette publique qu'on nous demande de rembourser. Et j'espère que la décision prise par les autorités grecques de soutenir cet audit de la dette publique avec participation citoyenne, qui est une initiative de la présidente du Parlement, mais soutenue par l'ensemble des autorités grecques, j'espère que ça va avoir un effet de domino positif vis-à-vis d'autres pays. Que les Portugais, les Espagnols, les Français vont se dire, mais si on fait ça en Grèce, pourquoi ne serait-ce pas justifié de le faire aussi dans nos pays? Et d'ailleurs, dans d'autres pays, si je prends l'exemple de l'Argentine, le 28 avril, l'Argentine vient de créer la commission bicamérale, donc Sénat, Chambre des députés, d'audit de la dette argentine. Et la commission a 180 jours pour présenter ses résultats. Ils seront donc présentés avant les élections générales et présidentielles en Argentine en octobre. Donc on voit qu'une décision en Grèce peut avoir des répercussions à d'autres endroits de la planète. Et le comité pour l'annulation des dettes du tiers-monde que je contribue à animer est présent en Argentine, est présent à différents endroits de la planète et mène justement ce travail en faveur de l'audit à participation citoyenne qui peut être un audit décidé par les autorités du pays et en l'absence d'une décision des autorités du pays qui peut être initié par des collectifs citoyens comme c'est le cas en France où existe un collectif d'audit citoyen de la dette française.
Ξεκίνησα εγώ πηγαίνω μόνος.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger, la réécouter, la diffuser en allant sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez un certain nombre de liens et notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi. Préparation, documentation, Laurence Chenpin, Anne Gouzon. Mixage, Claire Levasseur. Réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.